Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Vladimir Poutine vient de remporter un référendum constitutionnel ouvrant la voie à son maintien au pouvoir jusqu'en 2036. Sans aucune surprise, le oui l'a emporté à 77,9% avec un taux de participation de 67%. Au-delà de ce résultat, la première question qui se pose est celle de savoir si l'intention de Vladimir Poutine est réellement de demeurer au pouvoir pendant encore 16 années. Alors qu'une certaine usure du pouvoir est perceptible sur fond d'érosion de son charisme et d'une baisse de sa popularité. Que dire de la Russie alors que la pandémie du coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot et que les conséquences économiques ne sont pas formellement évaluées? La crise creusera-t-elle la vulnérabilité de l'économie russe et quelles conséquences en attendre au plan international? Y aura-t-il durcissement ou assouplissement de la politique internationale russe et évolution de la position de Moscou envers Pékin? Autant de questions avec nos invités par téléphone. Galia Ackermann, journaliste et historienne, auteur de Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine aux éditions Premier Parallèle. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Conessa, historien, essayiste et ancien haut fonctionnaire et auteur de La fabrique de l'ennemi chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Enfin, en studio, Tatiana Kastoué-Vajan, directrice du Centre Russie, Nouveaux États indépendants de l'IFRI et auteur de La Russie de Poutine en 100 questions chez Thaïlandier, dont une édition actualisée paraîtra le 3 septembre prochain. Bonjour.
Bonjour.
Une élection pour le moins atypique. Les Russes ont pu s'exprimer par anticipation, en ligne et des points de vote improvisés sur les bancs publics, des chariots de supermarché, dans des coffres de voitures ou des bacs à sable. Et le 1er juillet, de manière plus traditionnelle, dans les bureaux installés comme il se doit, dans les écoles et autres administrations. À Moscou, le non mène à 54,8% contre 44,9% pour le oui. À Saint-Pétersbourg, 63% ont dit non contre 36,6% oui. Globalement, le oui triomphe à 78%. Je le disais en introduction, c'est 77,9%. Est-ce que ce triomphe du oui correspond au ressenti d'une partie conséquente de l'électorat, Galia Ackermann?
Je crois que cette fois, le pouvoir est allé plus loin que d'habitude dans la falsification. Il y a beaucoup de commentateurs russes qui disent que ces résultats ont été dessinés à l'avance. Et en effet, quand on voit comment le vote se déroulait, d'une part, on obligeait les entreprises d'État en particulier de s'inscrire et de voter par la voie électronique, c'est-à-dire on essayait de forcer les gens de voter à l'avance avant le 1er juillet et on ne sait pas à quel point ce vote électronique est fiable déjà. Ensuite, en effet, il y avait toutes ces histoires anecdotiques que vous avez mentionnées, c'est-à-dire que les membres de différents bureaux de vote se sont déplacés auprès des vieux, auprès des gens qui vivent de façon isolée, auprès des travailleurs qui sont dans la toundra ou dans la taïga, etc. Et là aussi, comme c'est absolument pas secret ni rien, il est évident qu'il y a un pourcentage non négligeable de votes qui sont falsifiés. Ensuite, il y a eu des essais, plusieurs journalistes d'opposition ont essayé, ils ont pu voir qu'ils ont réussi à voter, par exemple, 3 ou 4 fois. Une fois de façon électronique, une autre fois dans un bureau, une troisième fois dans un autre bureau, etc., etc. C'est-à-dire, ce référendum qui ne dit pas son nom, c'était pas un vrai référendum. C'était une sorte de votation populaire pour approuver les changements constitutionnels qui ont été déjà validés par les parlementaires. Donc, en fait, c'était simplement une sorte de triomphe supposé de Poutine qui avait besoin de dire « Oui, le peuple me soutient comme avant ». Or, ce n'est pas vrai.
On y reviendra.
Moins 20 millions de personnes qui ont voté contre. Ça, c'est quelque chose de très important.
Alors, Tatiana Kassouavagent, on peut rappeler que ce référendum, il avait d'abord été prévu à une date précédente, antérieure, et que donc là, c'est aussi à cause du coronavirus et de la pandémie qui sévit en Russie que l'organisation s'est faite comme elle s'est faite.
Ah, absolument. En fait, les autorités étaient assez pressées de remettre ce vote avant l'automne, qui traditionnellement est considéré en Russie comme une période politiquement un peu plus difficile, plus complexe. En fait, en Russie, on dit souvent que ce sont les technologies politiques qui font les élections. C'est bien moins les plateformes, le fond, les contenus des programmes qui sont proposés par les partis politiques, mais les technologies. Et on dit aussi, et il y a eu des recherches sur ce sujet, qu'il n'y a pas eu deux élections avec les mêmes règles en Russie. À chaque fois, en fonction du contexte, les règles sont adaptées pour porter les autorités au pouvoir, pour les rendre gagnants, sortir gagnants de ces élections. Et c'est aussi les technologies réussies qui sont retenues pour la suite. Par exemple, là, le vol est allé sur une semaine, la semaine qui a précédé avant le 1er juillet, risque tout à fait, à toutes les chances, d'être retenu par la suite. Parce que c'est un vote qui est étalé dans les conditions qu'on a expliquées, où il n'y a pas eu d'observateurs, etc. Donc évidemment, ça prête beaucoup plus aux falsifications que dans d'autres conditions. Mais je pense qu'au-delà des falsifications, bien sûr, il y a de plus en plus de preuves, de différentes démonstrations des anomalies électorales. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a, c'est un vote pour la Constitution. Et si nous, en Occident, on a surtout retenu la possibilité pour Vladimir Poutine de la remise à zéro des mandats, de rester jusqu'à 2036, en Russie, c'est pas du tout le point sur lequel l'accent a été mis. C'est presque qu'il a été caché. Il y a eu un site internet sur lequel les amendements étaient détaillés. Et ben, ça a fait scandale sur les réseaux sociaux parce que l'amendement qui permet cette remise à zéro des mandats présidentiels pour Vladimir Poutine était absent. Il a été remis par la suite, etc. Donc c'est pas de ça qu'on a parlé en Russie. On a parlé des cadeaux à l'électorat en fait le plus démuni, c'est-à-dire quelques garanties économiques et sociales. On a parlé des valeurs conservatrices, la préservation des valeurs traditionnelles, le mariage, cette union entre un homme et une femme, et pas autrement, l'intégrité territoriale. Toutes ces choses, en fait, c'est un peu le vote pour un Russe moyen, je pense, qui n'est pas rentré dans les détails, pour tout le bien contre tout le mal. Donc, et en plus, si vous prenez en compte l'absence d'alternative politique, l'opposition, par exemple, n'a pas réussi à élaborer une seule ligne, en fait, de comportement. Est-ce qu'on va voter pour voter non? Et donc, automatiquement, on augmente le taux de participation. Est-ce qu'on boycotte ce vote, cette votation populaire? Ça n'a pas été clair pour beaucoup de gens, ça n'a pas été tranché. Donc du coup, on a un résultat qu'on a, voilà, l'absence d'alternative politique, absence de vrai programme alternatif pour l'opposition, etc. Et tout ce qui a été construit, tout ce champ politique verrouillé depuis 20 ans par Vladimir Poutine, aboutit à un résultat qu'on a aujourd'hui.
Un commentaire, Pierre Conessa.
J'aimais beaucoup ce titre du Monde à l'époque de l'URSS. À chaque fois qu'il y avait une élection, il titrait « Le triomphe des pronostiqueurs ». Là, effectivement, on sait que le résultat était déjà acquis. Toutes les incertitudes qu'on commentait, tous les trucages qu'on commentait, les deux autres participants, sont évidemment la preuve que le résultat était déjà défini à l'avance. Par contre, ce que je trouve très intéressant, ce sont les votes des grandes villes, c'est-à-dire des villes dans lesquelles, effectivement, les moyens de contrôle des partis d'opposition, la présence de journalistes étrangers, la présence de représentants des réseaux sociaux, etc., ont fait qu'un non s'est exprimé. Donc, il y a effectivement l'apparition d'une société civile, en tout cas dans les grandes villes, qui est de nature à résister à ce mouvement dictatorial que Poutine est en train d'installer. Cela dit, il faut que Poutine se méfie, parce qu'en général, quand il obtient une réélection comme ça, truquée, après le retour de bâton, dès qu'il y a les moindres difficultés, va très très vite. Donc il ne faut pas qu'il s'installe dans l'idée qu'il est tranquille jusqu'en 2036.
Alors Pierre Conessa, vous parliez des villes qui, elles, ont plutôt voté en faveur du non. Je précise que le plus haut score en faveur du oui, il a été observé en Tchétchénie. Alors tout cela fait apparaître plusieurs choses. Effectivement, une différence entre les villes et les campagnes, à l'évidence, Galia Ackermann. Peut-être aussi une fracture générationnelle. Mais au-delà de tout cela, ce référendum et cette réforme constitutionnelle sont l'occasion de quoi pour Poutine? Que vise aujourd'hui le président russe?
Vous savez, c'est une question que se posent beaucoup d'analystes et à laquelle il n'y a pas de réponse très claire. Commençons par le début. Personne n'a compris pourquoi il a initié de façon extrêmement pressée cette idée de changer la Constitution. Est-ce que c'était pour renforcer son pouvoir et assurer qu'il puisse rester au pouvoir jusqu'à 2036? Il a été rappelé d'ailleurs que cet amendement qui lui permet de commencer à partir de zéro encore de mandat, ça a été introduit assez tardivement par une ancienne astronaute, Valentina Tereshkova. Donc, ce n'était pas initialement prévu. Et donc, les analystes se sont penchés sur la question, mais qu'est-ce qu'il a donc voulu? Pourquoi on est en 2020? Il est tranquille de toute façon jusqu'à 2024. Pourquoi maintenant? Il y a un politologue qui est proche du Kremlin, donc M. Soloveï, qui dit depuis plusieurs mois, c'est quelqu'un qui est bien introduit au Kremlin, qui affirme que en fait, Poutine est apparemment soit gravement malade, soit il y a une autre raison qui ne lui permettra pas de rester au pouvoir jusqu'à non seulement 2036, mais même jusqu'à 2024. Et il n'est pas le seul, ce monsieur Soloveï, à le dire. Donc, peut-être cet acte de changer la Constitution, d'introduire notamment un organe qui n'était pas un organe constitutionnel, mais purement consultatif jusque-là, le Conseil d'État, est quelque chose qui est destiné à assurer non pas le triomphe de Poutine qui, si en effet il reste jusqu'à 2036, il aura gouverné beaucoup plus longtemps que même Staline, sans parler de Brejnev, mais que c'est fait pour assurer la transition. Donc, on se perd un peu en conjecture et je crois que c'est seulement en une ou deux années suivantes qui nous montreront de façon plus claire qu'est-ce qu'il veut au juste Poutine.
Alors, assurer la transition, je rebondis là-dessus avec vous, Tatiana Castouet-Vajan. Est-ce que finalement, il faut y voir aussi l'intention de Poutine de ne pas laisser les élites politiques s'organiser?
Moi, je pense que le but principal, en fait, de cette réforme, c'est d'éviter le clivage des élites. Vladimir Poutine, au mois de mars, s'est fait confortablement réélire. Il a fait son meilleur score pendant les élections, les différentes élections présidentielles qu'il a pu connaître. Mais au lendemain, en quelque sorte, il devient le canard boiteux parce que tout le monde se pose la question comment ça va se passer en 2024, qui sera le futur successeur, etc. Et donc, évidemment, les élites commencent à chercher pour rester au pouvoir, comment préserver chacun leur rente, leurs intérêts. Et donc, je pense que ça affaiblissait, Vladimir Poutine se sentait affaibli. Et par cette manœuvre, en fait, il arrive aujourd'hui à un niveau où c'est le seul maître de la scène politique, c'est lui seul qui va décider à quel moment, par quels moyens il sortira et vers où il sortira. Toutes les options sont ouvertes, y compris celles qui lui étaient fermées au moment de l'élection à cause de la Constitution qui interdisait d'exercer plus de deux mandats de suite. C'est peut-être aussi, on ne sait pas trop l'état d'esprit de Vladimir Poutine, mais vu ce qui se passe par rapport à l'Occident, c'est peut-être aussi pour éviter les manipulations de l'Occident qui pourrait soutenir tel ou tel camp au sein des élites face à Vladimir Poutine. En fait, il clôt en quelque sorte une étape importante. Il n'est plus du tout successeur de Yeltsin en mettant fin à cette constitution de Yeltsin. Nous sommes aujourd'hui, il est fondateur d'un nouvel État, entre guillemets, avec ses valeurs conservatrices, etc., avec un certain nombre de choses qui sont dans la constitution. C'est l'État Poutine désormais, c'est la constitution poutinienne. Il a quelque chose à léguer aux générations futures, quelle que soit la porte de sortie qu'il choisira en 2024.
Alors, Pierre Conessa, c'est aussi peut-être une volonté poutinienne d'occuper le terrain et de se donner une visibilité à long terme sur le plan international.
J'ai l'impression que le projet politique de Poutine en termes intérieurs, c'est effectivement à un certain moment de se retirer, parce que 2036, s'il va jusqu'au bout, il aura 86 ans ou 87 ans, donc c'est pas véritablement la perspective. Je pense qu'au contraire, à un moment, il va se retirer en ayant mis en place quelqu'un qui sera effectivement tout à fait dans sa lignée, et il sera un peu le père fondateur qui restera à surveiller le jeu politique en Russie. Sur le plan de la politique extérieure, effectivement, Poutine a marqué un certain nombre de points, mais que je trouve personnellement plus consécutif aux erreurs des Occidentaux qu'à sa propre dynamique politique. Si on le voit apparaître en Syrie et si on le voit apparaître à soutenir Assad, c'est aussi parce que les Occidentaux se sont décidés à des interventions militaires sans aucune analyse politique, sans aucun objectif politique, et donc laissant derrière eux une espèce de pagaille dont les Russes, finalement, arrivant comme des sauveurs pour laisser en place une des rares institutions politiques qui a survécu à cette tourmente, c'est-à-dire en fait le régime Assad. Et pareil en Libye aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voit apparaître les Russes et les Turcs en Libye, c'est aussi à cause des errements de ces interventionnismes à tout craint que les Occidentaux ont développé un peu partout, sans, encore une fois, sans solution politique. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'aujourd'hui, Poutine a regagné des positions internationales, mais qui sont autant le résultat des fautes des Occidentaux que de son propre activisme. Bon, je ne parle pas de la Tchétchénie où c'est la paix des morts, hein, évidemment, là on laisse ça de côté, ça a été un massacre pur et simple. Mais je parle de, sur les théâtres extérieurs, je trouve que Poutine a marqué beaucoup de points.
On développera dans la deuxième partie de l'émission particulièrement cet aspect international. Je me permets de revenir à la question du scrutin et du référendum. Tatiana Castovajan et Galia Kerman, qu'est-ce que l'on peut dire du rôle qu'a joué la pandémie dans le scrutin, et quel état de lieu peut-on faire au jour d'aujourd'hui de la façon dont la Russie se sort ou pas du coronavirus, Galia Kerman?
La pandémie a eu un effet très négatif sur l'image de Poutine, parce que, à la différence de plusieurs autres chefs d'État et à la différence de personnalités au sein de la Russie elle-même, Poutine s'est tenu totalement en retrait. C'est-à-dire, il ne voulait pas que les échecs éventuels dans le traitement de cette épidémie lui soient imputés. Et donc, il s'est calfeutré dans un bureau dans sa dacha qui se trouve dans une banlieue de Moscou. Et il a communiqué uniquement par visioconférence avec tous ses membres du gouvernement. Il a laissé le soin de traiter l'épidémie au gouverneur. Cela n'a pas produit un très bon effet parce que la Russie a toujours été un État paternaliste, c'est-à-dire les gens attendent du dirigeant qu'il dirige, qu'il gère, qu'il intervienne et qu'il trouve des solutions. Or, Poutine a d'abord proposé des allocations extrêmement faibles, pas à tout le monde, et il a été globalement absent dans le traitement de l'épidémie. Je crois que, d'ailleurs, si le vote avait eu lieu avant la pandémie, peut-être le score aurait été aussi élevé, mais de façon un peu plus honnête. C'est-à-dire, le timing pour faire cette votation a été, à mon sens, particulièrement mal choisi. Maintenant, quelques mots sur l'épidémie elle-même. Je crois que les statistiques officielles, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, ont été falsifiées. Mais même si on prend les statistiques telles qu'elles sont données sur le site officiel de la Fédération de Russie, il y a eu plus de 700 000 malades. Là où les statistiques sont falsifiées, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, ils ont un chiffre de morts qui ne peut pas être réaliste si on le compare au chiffre des personnes malades. Ils ont moins de 11 000 personnes qui sont mortes depuis le début de l'épidémie, encore une fois, alors qu'il y a 707 000 cas. Et ensuite, je crois que maintenant, comme ils ont décidé, le gouvernement a décidé de remettre l'économie en marche, il me semble qu'ils sont probablement en train de falsifier les nouveaux cas. Parce que, bien sûr, ça dépend des diagnostics faits par les médecins. Et j'ai entendu dire, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qu'il y a une indication aux médecins de ne marquer le corona que s'ils n'ont pas d'autre choix. Et pareil pour le cas des morts. Pendant assez longtemps, il me semble que maintenant ils ont arrêté, en partie en tout cas, cette pratique. Si la personne n'est pas morte dans la première phase, quand c'est vraiment viral, mais d'une complication comme la pneumonie, marquée dans le certificat de décès pneumonie. Et c'est ça qui a permis un nombre beaucoup plus bas de décès que dans les pays européens, sans parler des États-Unis, du Brésil, etc.
Alors on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission ces aspects renforcement du pouvoir des régions et gestion du coronavirus par la Russie. Avec vous, Tatiana Castoueva-Jean, Galia Kerman et Pierre Connaissant, vous retrouve après le journal, à tout de suite.
Anticipez. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Russie. Nous retrouvons nos invités, Tatiana Kastueva-Jean, directrice du Centre Russie, nouveaux états indépendants de l'IFRI, auteur de La Russie de Poutine en 100 questions chez Talendier, dont une édition actualisée paraîtra le 3 septembre prochain. Par téléphone, Galia Kerman, journaliste et historienne, auteur de Le Régiment Immortel, La Guerre Sacrée de Poutine, aux éditions Premier Parallèle, et Pierre Conessa, historien, essayiste et ancien fonctionnaire, et auteur de La Fabrication de l'Ennemi, paru chez Robert Laffont. Tatiana Kastueva-Jean, regard avec vous en prolongement de ce qu'a dit Galia Kerman dans la première partie de l'émission sur la gestion par la Russie du coronavirus. On a souligné le renforcement du pouvoir des régions avec un président qui est resté un petit peu en arrière de la main hein, sur la façon dont il fallait prendre cette pandémie en main. Et impact sur l'économie russe, on dit généralement que les redémarrages économiques sont à chaque crise plus difficile pour la Russie, en référence peut-être à la crise de 2008. Donc, regard sur ce qui se passe aujourd'hui avec vous, Tatiana Kastueva-Jean.
Oui, plusieurs choses. D'une part, sur la gestion du coronavirus, on n'a pas encore assez insisté sur les pouvoirs, la responsabilité qui a été déléguée aux régions, aux gouverneurs. Et on n'a pas l'habitude de ça en Russie depuis 20 ans. Parce que depuis 20 ans, c'est la construction du vertical du pouvoir. Les gouverneurs ont de moins en moins de pouvoir. Ils ne siègent plus au conseil de fédération. Ils ont un peu de marge de manœuvre en matière de ressources. C'est le Kremlin qui fait la péréquation. Et voilà soudainement qu'on leur donne la responsabilité de la gestion. Et je pense que c'est lié à la réforme constitutionnelle dont on a parlé au début. De cette manière, en fait, tous les effets négatifs, ce sont les gouverneurs qui les encaissent. Mmh. Et pas Poutine qui reste en retrait, en pilotage un peu supérieur de tout cela. Évidemment, la question s'est beaucoup posée, mais qu'est-ce qui va rester finalement de ce nouveau, entre guillemets, fédéralisme après la fin de la crise? Ben, c'est complexe de le dire parce que je pense pas grand-chose. Parce que le Kremlin, le système est fait de la sorte que c'est le Kremlin qui continue à avoir tous les leviers en main. Il y a un chercheur russe qui a mené des études et qui a sorti le chiffre de 2%, c'est le taux de répression parmi les élites régionales. Donc on peut dégager le gouverneur, on peut même le mettre en prison, mais pas seulement le gouverneur. Hein. On a le cas du ministre Loukaïev, donc les élites savent que les risques sont très importants. Et puis le profil de ces gouverneurs qui sont sur place, ce sont souvent les personnes parachutées par le centre fédéral qui ont que peu d'accroche en fait dans le paysage local. En ce qui concerne l'impact sur l'économie, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'en Russie, cette crise du Covid s'est combinée avec la chute du prix du pétrole et qui est due à l'échec de ce qu'on appelle le deal OPEP+. Donc c'est l'accord des producteurs du pétrole pour réduire la quantité du pétrole produit dans le monde pour maintenir le prix. Or, le 6 mars, cet accord a échoué. Du coup, le prix s'effondre et l'économie russe, malgré tout le discours sur le besoin de diversifier, etc., reste extrêmement dépendant. 67% des exportations russes, ce sont les exportations des hydrocarbures. Et donc, évidemment, c'est ça ce qui a une répercussion extrêmement forte. Et finalement, la Russie et l'Arabie Saoudite, deux acteurs principaux de cet accord OPEP+, trouvent un arrangement qui fait que le prix aujourd'hui repart à la hausse. Et c'est ça ce qui sauve aussi la situation. Par ailleurs, la Russie a une dette qui est bien inférieure à celle des pays occidentaux. Et là aussi, des réserves de change qui sont énormes et dont fait partie le fonds souverain, dit le fonds de bien-être national. Et c'est très intéressant parce que pendant la crise où ce fonds devait être dépensé, finalement, il a même augmenté en volume. Donc les autorités russes continuent à accumuler les coussins de sécurité en prévoyant cette crise qui pourrait être durable. Quand on regarde les sondages, la population russe finalement évalue d'une manière assez positive l'action du gouvernement et des gouverneurs. Il y a plus de la moitié qui se disent satisfaits. En revanche, c'est une autre paire de manches quand on regarde si vous êtes satisfait, quand on pose la question en fait aux gens, si vous êtes satisfait de la gestion économique de la crise. Et là, vous avez une grosse majorité des Russes qui n'ont même pas senti qu'il y a eu des aides ou quoi que ce soit fait par le gouvernement dans les conditions de la crise. C'est ça ce qui peut jouer pour les prochaines élections, et notamment les élections, vous avez mentionné les élections parlementaires de l'automne 2021. Ça, il y a encore plus d'un an avant ces élections, et je pense qu'ils peuvent être extrêmement compliqués à gagner pour les autorités.
Alors, à la chute du prix du pétrole s'ajoute aussi le ralentissement de l'économie mondiale qui fait que, bah, effectivement, la demande énergétique à l'égard de la Russie est moindre qu'avant le coronavirus. Finalement, Pierre connaît ça sur les plans économiques. On ne peut pas dire qu'il y ait particulièrement une spécificité russe. Finalement, Moscou est affecté de la même manière que les pays de l'Union européenne.
Je voudrais revenir d'abord sur une chose, c'est que cette crise du coronavirus a secoué tous les gouvernements aujourd'hui sur la planète. Hein, on est même en France, on est aujourd'hui dans une situation où les équipes en place ne savaient pas comment gérer quelque chose dont encore une fois était une pandémie tout à fait nouvelle. Bon, donc aujourd'hui on est plutôt accusé mutuellement les uns les autres pour essayer de trouver des responsables, mais il n'y en a pas. Donc la Russie n'a pas plus mal géré que les autres, notamment que les États-Unis, cette pandémie, puisque aux États-Unis on est à peu près à 60 000 nouveaux cas par jour aujourd'hui et on doit être à 130 000 décès. Donc si on doit faire la comparaison entre Trump et Poutine, Trump lui alors s'est tenu carrément à l'écart de tout ça, c'est-à-dire il a dit non, il n'y a pas de maladie du tout, quoi. Donc ça c'est pour relativiser, si vous voulez, tous les critères d'analyse quand on parle de la Russie. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'intervention qui vient d'avoir lieu, c'est que la comparaison entre la Russie et les pays du Golfe est extrêmement intéressante, c'est-à-dire le taux de dépendance vis-à-vis du pétrole, l'existence d'un fonds souverain qui effectivement est parfaitement doté et très très riche, et puis finalement quelque chose qui va asseoir une stratégie politique de la Russie, probablement très offensive, si vous voulez, sur le plan économique, chose qui était un peu inimaginable il y a quelques années. Donc que les Russes n'en aient pas vu le bénéfice, j'acquiesce assez facilement à ce genre d'analyse, mais par contre, en termes de stratégie internationale, on a un acteur qui aujourd'hui est à peu près dans les mêmes formats que ce qu'on a avec les pays du Golfe, avec une différence essentielle, c'est qu'il y a quand même des élections, si vous voulez, en Russie. On discute les résultats, mais pour des élections locales, ça peut éventuellement amener, comme on l'a vu pour les grandes villes, à des résultats qui expriment la naissance d'une société civile. Donc voilà, moi c'est cette comparaison avec les pays du Golfe qui me paraît extrêmement intéressante et qui va changer une partie des critères d'analyse.
Oui, Tatiana Kassouajan.
À souci près que le budget de l'Arabie Saoudite est équilibré à 80 dollars le baril et la Russie c'est 42, donc en fait c'est un peu le pari de ça que la Russie a fait en contribuant à l'échec de l'accord OPEP+ le 6 mars.
Oui, mais si vous voulez, encore une fois, sur le thème de la comparaison, ce qui est très intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite doit être à son sixième ou cinquième projet qui doit transformer complètement l'économie saoudienne et la défaire de la dépendance pétrolière. La différence entre les Saoudiens et les Russes, c'est que les Russes travaillent, tandis que les Saoudiens ne font rien. Les mettre au travail, si vous voulez, avec des projets annoncés, comme le fait Mohamed Ben Salman, à 5 000 milliards pour son projet de NEOM, de nouvelle ville technologique, si vous voulez, c'est totalement irréaliste dans le cas de l'Arabie Saoudite. Ça peut être beaucoup plus réaliste dans le cas de la Russie. Parce que, encore une fois, il y a une tradition de rapport au travail, si vous voulez, qui est tout à fait différente.
Alors, on aborde les questions de politique étrangère et de répercussions à la fois du référendum et de la crise de la pandémie à l'international. Quels sont les scénarios possibles? On peut imaginer que les stratégies, j'en vois trois, pouvant être menées par Moscou, soit un achèvement du pivot vers l'Asie dominé par la Chine, pivot vers l'Asie qui est régulièrement mis en avant par Poutine. Et on peut souligner à cet égard que Pékin et Moscou partagent une vision commune des relations internationales, donc une certaine forme de solidarité géopolitique, ou plutôt reconstruire l'influence russe dans les mondes slaves et post-soviétiques, mais peut-être, et là j'aurais besoin de votre éclairage analytique, au risque de l'isolement, soit enfin rejoindre la famille européenne, aujourd'hui honni d'une certaine manière comme un repoussoir au risque du revirement. Comment voyez-vous les choses, Galia Kerman?
Je crois que Poutine a un peu énoncé le projet qui lui tient à cœur dans son récent papier qui est consacré à 75 ans de la grande victoire de la Russie dans la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, cette victoire où il explique pourquoi la Russie a gagné et en fait vilipende assez les alliés, les Américains et les Britanniques, en fait, ce qu'il veut, en somme, c'est de recréer le mécanisme des pays victorieux de la Seconde Guerre mondiale, à savoir donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie, héritière de l'Union soviétique, cinq pays qui aujourd'hui sont les membres permanents du Conseil de sécurité avec le droit de veto pour redessiner le monde. Je pense que ce que veut le Poutine, c'est d'aboutir à une sorte de nouvel accord sur la sécurité globale dans le monde, une nouvelle répartition de zones d'influence et qu'on reconnaisse notamment l'annexion de la Crimée et qu'on reconnaisse le droit historique en quelque sorte de la Russie sur l'ensemble, disons, post-soviétique. C'est le projet maximum. Je ne crois pas qu'il puisse atteindre cela, mais toute sa politique tend vers cet objectif, une nouvelle Yalta.
Pierre connaît ça.
Oui, je crois qu'effectivement, on ne peut pas se sortir complètement, si vous voulez, des règles d'analyse internationale qui existent jusque-là. Donc, profiter des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est aller dans le sens des membres les plus faibles de ce Conseil de sécurité pour leur dire « conservez votre statut ». Et donc, aidez-nous à conserver le nôtre. Bon. Donc, ce jeu international est assez classique. L'idée que la Russie puisse construire un nouveau multilatéralisme, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est dans un multilatéralisme absolu, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où les Américains peuvent décider unilatéralement, et ils l'ont fait avec, malheureusement, l'aide des Européens dans un certain nombre de crises. Et donc, que des pays comme la Russie considèrent que c'est un système qui est très instable et déstabilisant me paraît une règle à laquelle il faut adhérer. C'est pour ça que l'ouverture de Macron vers la Russie pour essayer de rétablir avec la Russie des relations normales, je crois que si vous voulez, il ne faut pas confondre deux choses. Que le régime de Poutine soit une dictature, personne ne va contester ce fait. Qu'il faille en faire un ennemi, ça je trouve que c'est tout à fait, c'est une construction de Trump. Ça ne doit pas être une construction européenne. La Russie appartient au continent européen et on doit avoir avec la Russie des relations critiques, mais des relations pas une espèce d'exclusion et de diabolisation, comme je l'ai entendu avec le courant néoconservateur qui est extrêmement puissant aujourd'hui à l'intérieur de l'administration française. Ce courant néoconservateur étant très proche des analyses américaines. Et donc je trouve que le président Macron tend la main à la Russie me paraît une très bonne chose. Maintenant que la Russie ait les moyens, si vous voulez, de reconquérir une zone d'influence, malheureusement on s'aperçoit que les vieilles règles impériales, si vous voulez, continuent à fonctionner. C'est vrai d'ailleurs de tous les pays qui sont des pays membres permanents du Conseil de sécurité. La France considère que sa zone d'influence, c'est l'Afrique francophone. Les Américains considèrent que c'est à la fois l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Enfin bref, on est sur des systèmes qui sont malheureusement anciens et qui continuent à se pérenniser. Ce que je remarque paradoxalement, c'est que le pays membre permanent du Conseil de sécurité qui a mené le moins de conflits extérieurs depuis 45, c'est la Chine. Or, c'est le pays dont on veut faire un ennemi, si vous voulez, ou une menace de déstabilisation. Donc, il faudrait arrêter ces mécanismes qui font que, notamment en France, malheureusement, on continue à qualifier, si vous voulez, d'ennemis des gens qui simplement contestent l'ordre international.
Alors, je précise, pour abonder dans le sens de Pierre Conessa, que Pierre Vimont a été nommé représentant personnel d'Emmanuel Macron, comme si finalement le dossier russe échappait un peu au ministère des Affaires étrangères et au faucon de ce ministère. Et par ailleurs, que Emmanuel Macron a accepté une nouvelle invitation de Poutine à se rendre en visite officielle en Russie. La date est à fixer, c'est probablement, au plus tôt en tout cas, à l'automne prochain. Tatiana Kastrovajan, Emmanuel Macron peut-il initier de nouvelles bonnes relations entre Moscou et l'Europe ?
Juste avant de répondre à votre question, j'ai quand même exprimé mon désaccord avec le terme de dictature appliqué à la Russie. C'est un régime autoritaire, un régime personnaliste, mais c'est parler de la dictature, c'est encore un petit peu fort. La Russie a connu, à d'autres moments de son histoire, les moments qui pourraient et qui sont qualifiés de dictature.
Vous avez tout à fait raison.
Et donc sinon, pour répondre à votre question autrement, en fait, en posant dans un contexte un peu plus large, je pense que ni le Covid, ni la réforme constitutionnelle ne vont pas complètement bouleverser le cours de la politique étrangère russe. Le pivot vers l'Asie, la confrontation avec l'Occident, l'accent sur la mémoire historique, etc. Tout ça, ce sont les facteurs qui vont rester, qui sont parfaitement valables. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, la Russie elle a plusieurs objectifs en matière de politique étrangère. Premièrement, c'est préserver l'intégrité territoriale. Deuxièmement, préserver sa souveraineté et limiter autant que possible, voire supprimer toute ingérence extérieure possible. Troisièmement, c'est la maîtrise de l'espace post-soviétique. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire aller gérer les affaires intérieures de ces pays à leur place, mais maîtriser le jeu des alliances et éviter que ces pays adhèrent à des alliances considérées comme des hostiles. Je pense à l'OTAN, mais aussi de plus en plus l'Union européenne. Avant, c'était dissocié dans l'esprit des Russes. Aujourd'hui, c'est de plus en plus proche, en fait. Et enfin, le quatrième objectif, c'est il est plus récent, mais c'est la préservation du rôle sur le plan international. Et en fait, la marge de manœuvre, tant qu'on a ces objectifs en vue, elle peut être différente. Elle peut être atteinte par les différents moyens, donc c'est ça la marge de manœuvre russe, mais c'est ça ce qu'ils ne veulent plus jamais perdre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, dans les amendements constitutionnels, il y en a quand même deux qui ressortent, qui concernent la politique étrangère. c'est la préservation de l'intégrité territoriale, le refus d'aliéner les territoires. Évidemment, on pense avant tout à la Crimée, qui n'est plus négociable pour les Russes, même pour les leaders de l'opposition d'ailleurs. Mais ça concerne aussi les îles Kouriles, par exemple, dans les discussions avec le Japon. Et néanmoins, la formulation est assez ambiguë parce qu'elle est suivie de la précision « sauf les cas de la nouvelle démarcation, délimitation des frontières, etc. » C'est-à-dire, si finalement on arrive à un accord et on le met sous le chapeau la nouvelle démarcation de frontières, bah, ça passera. Et
un le deuxième version russe, enfin je veux dire...
Version russe, tout à fait. Ouais. C'est surtout en fait pour pouvoir emballer et présenter ça après à l'opinion intérieure, qui est quand même nourrie à cette confrontation avec l'Occident depuis quelques années. Et la deuxième, c'est la primauté du droit national sur le droit international. Et d'ailleurs, la Russie a en quelque sorte aussi la branche sur laquelle elle est assise, parce qu'elle ne cesse de dire il faut respecter le droit international, l'ONU avant tout, pas d'intervention en dehors du cadre de l'ONU, etc. Et maintenant, c'est dans la Constitution, et elle va avoir le droit de sélectionner, en fait, qu'est-ce qu'elle applique, qu'est-ce qu'elle n'applique pas, en fonction s'il considère que ça correspond à la Constitution ou pas. Et c'est là où je peux venir maintenant répondre à votre question sur Emmanuel Macron. La France a toujours joué un rôle particulier, un rôle à prêter une oreille plus attentive aux préoccupations, y compris les préoccupations sécuritaires des Russes. Je pense qu'Emmanuel Macron, il fait une bonne chose en continuant le dialogue. Maintenant, il ne faut pas oublier ces dialogues et fermetés. Mm-hmm. Donc, il y a aussi certains aspects sur lesquels la France n'a absolument pas prévu de céder. Et on voit ça dans certaines expressions du ministre Le Drian, quand il dit, par exemple, que l'action dans la République centrafricaine des Russes est anti-française. C'est quand même un message très fort. Mm-hmm. Emmanuel Macron a pu avoir aussi des propos très durs sur les ingérences, sur RT et Spoutnik, qui sont les agents des influences russes. Donc, surtout, faut pas oublier, c'est sans naïveté et en ayant pleinement conscience de ce que ça implique, en fait, ce partenariat avec la Russie.
Alors, en guise de conclusion, désolé, mais le temps passe affreusement vite. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si le Kremlin compte sur un changement de relation avec Washington après la présidentielle de novembre prochain, Galia Kerman?
Le Kremlin a toujours soutenu Trump. Il continue à le soutenir. Maintenant, les médias officiels russes parlent de la guerre civile aux États-Unis, boosté par le Parti démocrate. Pour eux, le Parti démocrate a été et reste le parti de la guerre, et Trump, en quelque sorte, reste, sinon un allié, le moindre mal. Donc, je pense que les Russes vont probablement soutenir, à travers leur réseau d'influence, la réélection de Trump.
Pierre connaît ça.
Moi, je reviens toujours à mes anciennes, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand on accuse la Russie de faire de l'espionnage, n'oubliez pas que c'était la NSA qui écoutait Angela Merkel sur son portable. Donc, il faut appliquer aux règles internationales les mêmes critères sur tous les pays. L'espionnage, aujourd'hui, tout le monde le fait, y compris la France. On ne peut pas se croire qu'on est plus angélique que les autres. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, moi, je ne comprends pas le terme de confrontation avec l'Occident pour la Russie. Est-ce que ce n'est pas nous qui cherchons la confrontation absolument avec la Russie? C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à penser la Russie autrement que comme un corps externe à l'Europe et qui par nature, par sa dimension, par sa puissance, etc., était un élément de déstabilisation. Donc moi je trouve qu'à l'échelle de la planète, aujourd'hui la Russie est plutôt une puissance de stabilisation que de déstabilisation, en tout cas comparée par rapport à la politique qu'ont menée les Occidentaux sur la dernière décennie, ça me paraît un constat évident.
Tatiana Kastrovajan.
Moi je pense que beaucoup a été fait quand même pour approcher la Russie et l'Europe. La Russie a adhéré au Conseil de l'Europe avant qu'elle ne puisse répondre pleinement aux critères. Avec l'Union européenne, les mécanismes étaient extrêmement développés, plusieurs documents signés, etc. Aujourd'hui, ce que je voulais souligner, c'est que cette confrontation avec l'Occident, c'est l'un des piliers de la légitimité de Vladimir Poutine. C'est ça ce qui pose aussi problème.
Merci Tatiana Kastrovajan. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre Russie Nouveaux États Indépendants de l'IFRI et auteure de La Russie de Poutine en 100 questions chez Talendier, dont une édition actualisée paraîtra le 3 septembre prochain. Galia Kerman, qui était avec nous par téléphone, journaliste et historienne, auteure de Le Régiment Immortel, La Guerre Sacrée de Poutine, paru aux éditions Premier Parallèle, et Pierre Conessa, historien, essayiste et ancien haut fonctionnaire, et auteur de La Fabrication de l'Ennemi, paru chez Robert Laffont. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yaël Coe et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de l'après-Covid avec Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, et Pascal Boniface. À demain.